à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce 8e numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Un sujet sérieux sur la table aujourd'hui. Allez, un dernier coup de collier avant des vacances amplement méritées. Sujet sérieux donc, avec une question à l'apparence simple, voire simpliste. Sommes-nous encore dans un régime démocratique où le gouvernement actuel est-il en train de dériver doucement vers un autoritarisme de plus en plus ferme ? Le nombre de citoyens se posant cette question capitale semble augmenter considérablement ces 6 dernières années face aux violences policières, qui, je vous le rappelle, n'existent pas, à l'éviction des corps intermédiaires du débat public, à la mise à l'écart du Parlement et aux dernières manipulations concernant la réforme des retraites, malgré l'opposition d'une large majorité de la population. Manipulation constitutionnelle, certes, mais que vaut un texte voté il y a plus de 60 ans ? Et puis en fait, qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce qu'une dictature et toutes les déclinaisons à travers l'histoire et un monde où ce mode de gouvernement gagne chaque jour du terrain ? L'organisation de scrutin suffit-elle à déclarer un pays démocratique ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter une réponse en compagnie de notre invité René Frégosi, qui est docteur en philosophie et en sciences politiques et autrice d'un essai publié aux éditions de l'Aube, 50 nuances de dictature, paru dans la collection Un monde à raconter. Bonjour René Frégosi et bienvenue dans Bien au contraire. Merci de nous consacrer de votre temps.
Bonjour, merci à vous.
Alors ma première question, elle n'est pas compliquée, elle portera sur le vocabulaire, parce que pour moi le langage est actuellement tellement dévoyé que l'on ne sait plus de quoi on parle. Donc la question elle est simple, c'est qu'est-ce qu'une dictature ?
Oui absolument, mais écoutez, vous avez des grands spécialistes de la science politique dans l'histoire qui ont dit une chose à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire que le plus simple pour définir la dictature, c'est de dire que c'est l'opposé de la démocratie. Alors évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que la démocratie ? Eh bien, pourrais-je vous répondre ? L'opposé de la dictature. Bon,
voilà. Alors, on a avancé là quand même.
On n'a pas beaucoup avancé, mais quand même. En fait, l'idée centrale, c'est que précisément, il existe deux grands principes d'organisation sociale et de relations humaines, parce que une dictature et une démocratie, ça réfère à des régimes politiques, à une organisation politique. Mais il existe, évidemment, les principes d'organisation ont à voir avec l'autoritarisme ou le libéralisme, hein, puisque en fait, les deux principes qui s'opposent, c'est le principe du libre choix versus, contre, le principe de l'imposition.
Il y a une phrase qui est importante dans votre livre. Dès le début, vous dites que l'autoritarisme est la chose la mieux partagée au monde.
Eh oui, l'autoritarisme aussi bien en tant que régime politique que en tant que mode de relation à l'autre. Et alors, en tant que régime politique, c'est vrai que vous avez des tas de sortes d'autoritarisme depuis l'origine des sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui. Et la démocratie apparaît en fait à l'échelle de l'histoire comme des moments absolument singuliers et assez rares, somme toute. Si vous regardez la démocratie athénienne dans son contexte historique, sur plusieurs millénaires même, on peut compter que finalement c'est une exception au milieu de régimes. Alors le régime impérial, c'est le régime sans doute le plus répandu au monde à travers le temps et l'espace, hein. Et donc vous voyez la petite démocratie athénienne qui a duré à peine deux siècles Oui. Bon, vous voyez, c'est peu. Et de nos jours, effectivement, la démocratie s'est imposée en Occident progressivement, hein, à partir et parallèlement d'ailleurs avec l'expansion du libéralisme économique.
Bah, parce qu'il faut bien vendre. Marché. Il faut bien vendre aussi ce qu'on produit.
Mais il faut surtout échanger de façon régulée et pas forcément égalitaire, mais en tous les cas sur la base d'un accord de part et d'autre.
Ce que vous décrivez bien dans votre livre, c'est qu'il y a un système de balancier entre démocratie et dictature. C'est un peu comme une balançoire quand on la voit passer. Il y a la démocratie, après il y a la dictature, il y a la démocratie. Enfin, ça se succède.
Alors, ça se succède, mais pas forcément justement comme une balançoire. En fait, c'est pas du tout régulier. Ce que je voudrais montrer, c'est que rien n'est inéluctable. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas installée à tout jamais et la dictature n'est pas non plus inexpugnable. Pourquoi ? Parce que précisément, les deux types de régimes ne sont pas chimiquement purs, c'est-à-dire qu'une démocratie n'est pas démocratique de part en part et une dictature n'est pas non plus autoritaire absolument. Il y a des germes d'autoritarisme et des éléments d'autoritarisme dans les systèmes démocratiques, de même qu'il existe, fort heureusement, des germes de démocratie, de libération au sein des régimes les plus autoritaires même. Sinon, évidemment, le passage de l'un à l'autre serait impossible si c'était des réalités complètement étanches.
Par exemple, comment nommer une démocratie qui installe des dictatures dans d'autres pays ? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Si on prend les États-Unis et ce qui s'est passé au Chili, ou en Amérique centrale, où les États-Unis ont ouvertement, ils s'en sont pas cachés, travaillé à renverser des régimes comme celui d'Allende. Comment ça s'appelle une démocratie qui installe des dictatures ?
Alors, une démocratie n'est pas non plus évidemment exempte de contradictions. Oui. Comme je vous le disais, il peut très bien y avoir, et il y a toujours, plus ou moins, et suivant les époques, des éléments d'autoritarisme au sein des démocraties et des germes de démocratie au sein des dictatures. Mais je voudrais juste, c'est une incise, mais je voudrais faire une précision. Autant en Amérique centrale Caraïbe qu'on avait appelé l'arrière-cour des États-Unis, les États-Unis ont eu un poids considérable sur des régimes qui souvent étaient effectivement des régimes croupions, des républiques bananières, notamment avec la United Fruit Company, hein, qui faisait et défaisait les présidents en Amérique centrale.
Ouais, oui, t'étais.
C'est vrai que l'Amérique centrale et les Caraïbes étaient vraiment un espace, parce que géopolitiquement très important pour les États-Unis, était un espace de domination des États-Unis pendant très longtemps. En revanche, alors pour le Chili, j'émettrais une réserve de taille, c'est-à-dire que il est vrai que le gouvernement des États-Unis était absolument défavorable au régime d'Allende pour des raisons à la fois économiques et idéologiques, hein, puisqu'il y avait des intérêts nord-américains importants, notamment dans les mines de cuivre,
oui,
mais qui avaient déjà commencé à être nationalisés, d'ailleurs, du temps du gouvernement précédent, du gouvernement d'Allende de Frei. Mais il faut bien, là j'insiste beaucoup là-dessus, parce que justement j'ai beaucoup travaillé sur à la fois les chutes des démocraties et les chutes des dictatures. Le Chili est un... Est est un État-nation extrêmement fort, très structuré. C'est sans doute l'État-nation le plus structuré d'Amérique latine et cela de façon le plus précoce hein, au XIXe siècle. Il y a eu, la CIA a effectivement fomenté des coups d'État. On estime qu'il y en a eu 17 avant le coup d'État du 11 septembre 73 qui a réussi. Mais ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué parce qu'il n'y avait pas encore des acteurs locaux assez puissants en faveur du coup d'État. Et en fait, le rapport de force entre les acteurs sociaux et notamment au sein des forces armées qui appuyaient le régime démocratique et ceux d'autres acteurs qui souhaitaient la chute quitte à faire un coup d'État, ce rapport de force a basculé en août 73. Et d'ailleurs, lorsque les organisateurs du coup d'État de 73 ont été chercher Pinochet pour qu'il prenne la tête du coup d'État parce que c'était le général en chef de l'armée de terre et l'armée de terre est toujours la force la plus puissante dans les coups d'État, il fallait que ça soit un général de l'armée de terre qui prenne la tête du coup d'État, il a hésité Pinochet. Parce qu'il n'était pas sûr que le coup d'État réussisse. En fait, il n'était pas certain que le rapport de force avait à ce point changé en faveur du golpe. Et voyez, donc c'est vrai que les États-Unis étaient favorables au coup d'État. L'ambassadeur des États-Unis a suivi pas à pas la mise en place du coup d'État. Mais tout seul, les États-Unis ne pouvaient pas changer le régime.
Oui, c'était
juste. Il y a toujours des acteurs locaux. Et c'est sur eux qu'il faut beaucoup veiller aussi. Il n'y a pas que la dimension internationale, hein, pas toujours. Je vous dis, dans certains espaces, oui, mais au Chili, en l'occurrence, non, ça ne suffisait pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas favorables. Hein, ça,
non,
je suis d'accord.
On aurait pu prendre aussi plein d'exemples. La France en Afrique qui ne s'est pas gênée pour soutenir des dictatures sanguinaires pendant très longtemps.
Mais, absolument, parce qu'il n'y a pas seulement les fomenter, il y a aussi les soutenir lorsqu'elles existent.
Exactement.
Et ça, vous avez tout à fait raison. C'est une des grandes contradictions des démocraties occidentales pendant longtemps.
Et on note, par exemple, moi, ce qui est important, c'est une plus grande tolérance des États à la dictature et aux partis antidémocratiques. Moi, je me rappelle, j'étais là en Autriche, l'entrée du FPE au gouvernement en 2000, je crois.
J'avais dit quelque chose là-dessus.
Ça a été absolument dingue. Plus personne ne voulait parler à l'Autriche. L'Autriche était au banc des nations, alors qu'ils gouvernaient pas. Ils étaient au gouvernement. Ils étaient entrés. Aujourd'hui, quand on regarde la Hongrie, la Pologne, on regarde l'Italie de Meloni qui se proclame héritière de Mussolini, et ça ne gêne absolument personne.
C'est pas que ça gêne pas, mais je crois qu'il y a deux phénomènes conjoints pour expliquer ça. C'est que d'une part, ces partis d'extrême droite, je connais bien l'Autriche, j'y ai même vécu un an d'ailleurs, mais ces partis d'extrême droite, comme le FPE, et comme les partis à la fois de Meloni, mais aussi de Berlusconi. Ce sont des partis qui ont une part d'héritage des anciens partis totalitaires, mais qui ont évolué en direction d'une structuration populiste. Alors attention, qu'on m'entende bien, pour moi le populisme est un grand danger parce que, et j'ai beaucoup étudié justement le péronisme en Argentine, c'est un type de mouvement politique extrêmement déstabilisant et tout à fait néfaste pour les États, hein. Parce que ça déstructure et au moins ça ne structure pas en tous les cas. Et c'est généralement très négatif pour les États. Donc je ne prône pas du tout le soutien à ce genre de parti politique, mais je pense que ça explique en partie ce que vous dites, qui est effectivement une beaucoup plus grande tolérance à l'arrivée de ces partis au pouvoir, parce que effectivement ils font moins peur. Alors, à tort et à raison, je vous dis à raison, parce que c'est vrai que ce ne sont plus des partis d'extrême droite au sens où ils ne sont pas foncièrement opposés, comme les grands totalitarismes d'hier, à la démocratie, à l'organisation démocratique du pouvoir.
Ils sont dédiabolisés.
Mais en même temps, ce sont des gouvernements qui sont incapables de faire avancer les États dans lesquels ils prennent le pouvoir. Donc, ce sont des dangers, évidemment. En tous les cas, ce sont des événements négatifs que leur arrivée au pouvoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi dramatique que s'ils étaient encore des régimes absolument dictatoriaux, vous voyez.
Oui, mais les dictatures...
On est dans l'entre-deux.
Oui, on le voit dans votre essai, les dictatures brouillent souvent les cartes en organisant des scrutins, hein, en élisant des parlements fantoches. Il y a un parlement en Russie, il y a des parlements dans des pays qui sont foncièrement dictatoriaux.
Donc c'est une autre question, c'est que ce que je disais des populistes européens, c'est que je crois que sincèrement ils ne sont pas opposés à des scrutins démocratiques. Mais en revanche, effectivement, étant donné qu'aujourd'hui, ben ça c'est après la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, après qu'aient été connues les horreurs du nazisme, les idéologies ouvertement d'extrême droite et ouvertement opposées à l'élection libre ne peuvent plus faire recette au-delà de quelques groupuscules, de quelques centaines de personnes, comme on en a vu défiler à Paris, mais c'est quelques centaines de personnes, parce que s'opposer frontalement à la démocratie, prôner ouvertement la dictature, comme c'était le cas en fait d'Hitler, hein, et de Mussolini, qui dénigrait la démocratie occidentale comme étant un régime efféminé,
dégénéré,
etc., dégénéré. Je mets des guillemets évidemment à tous ces mots épouvantables. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus ouvertement. Donc, on a effectivement des régimes qui, en fait, pensent que la démocratie est quelque chose de tout à fait méprisable et avec lequel ils sont en total désaccord, mais ils font semblant d'être des démocraties. C'est donc ce qu'on appelle, en fait, ça vient d'un néologisme espagnol, democradura, parce que en espagnol, la dictature, on dit dictadura, ce qui est assez savoureux, puisque la terminaison est dure, parce que dura, ça veut dire dur aussi au féminin en espagnol. Et donc, on a des théoriciens des transitions à la démocratie, Schmitter, O'Donnell, Whitehead, Garretón, etc., ont forgé un néologisme en espagnol qui est democradura, c'est-à-dire pour la democradura n'est pas du tout un régime qui mélange la dictature et la démocratie. C'est un contresens que de penser ça. En fait, ce qu'ils ont voulu mettre sous ce vocable, ce sont ces régimes qui, comme vous le dites, font semblant d'être des démocraties en organisant des élections. Mais là, le problème, c'est que de quel type d'élection il s'agit ?
Exact.
Il ne s'agit pas d'élection libre. Alors, qu'est-ce qu'une élection libre ?
Je vous arrête. Nous allons voir ça au cours de la deuxième partie.
On verra ça tout à l'heure. Donc, les dictatures...
On va se faire une première pause musicale avec Léthargie de Séraphin. C'est parti.
Ah, super.
We'll be right back.
Dictature ou démocratie, nous continuons d'en discuter avec notre invité Renée Frégosi, qui est autrice de 50 nuances de dictature, qui est parue aux éditions de l'Aube dans la collection Un monde à raconter. Le marxisme, vous parlez par exemple de la dictature chinoise ou de l'ex-Union soviétique, mais le marxisme au moins, il mettait les cartes sur la table, il parle de dictature du prolétariat, de centralisme démocratique, on peut pas dire qu'il se cachait derrière son petit doigt.
Oui, mais en même temps, on parle quand même de... D'accord, centralisme démocratique, mais démocratique.
Ah ben
on
oui.
parle de démocratie populaire. Alors, effectivement, la notion de démocratie n'était pas rejetée frontalement par le bolchevisme, contrairement au nazisme ou au fascisme italien. Mais en fait, et ça, on va le retrouver, on retrouve aujourd'hui différentes façons de dénigrer la démocratie occidentale. Donc, à l'époque, donc le bolchevisme considérait que la démocratie, les régimes qui se prétendaient démocratiques ne l'étaient pas. Ils appelaient ça donc des démocraties bourgeoises ou fausses démocraties, et eux prétendaient instaurer la vraie démocratie. Et dans cette logique-là, c'est-à-dire une démocratie non pas pluraliste, où le but de la démocratie populaire, de la démocratie communiste, était de supprimer les classes sociales. Ça voulait dire quoi ? En fait, le but était de supprimer, c'est une utopie tout à fait mortifère en fait, de supprimer les conflits au sein de la société.
Les contradictions.
Mais les contradictions, exactement, de supprimer les intérêts contradictoires. Et ça, c'est mortifère, parce qu'en fait, le conflit, c'est la vie. Mais justement, la démocratie, une des définitions de la démocratie, de Lefort, de Claude Lefort, c'est précisément la démocratie est la gestion pacifique du conflit, non pas la négation du conflit. Le conflit, c'est la vie, mais il faut le gérer pacifiquement.
Et la guerre, c'est quand le débat n'est plus possible. Et quand on reprend, par exemple, ces grandes dictatures que sont le fascisme de Mussolini, le nazisme d'Hitler, le pétainisme en France, on voit qu'il n'est pas né avec la défaite de 40, qu'il était prévu bien avant par des groupes comme la Cagoule, etc. On s'aperçoit qu'il y avait une énorme présence des patrons, des grands patrons, de la grande finance. Et quand on voit les dictatures qui naissent un peu partout, en Amérique du Sud, etc., on s'aperçoit ou en Afrique, on s'aperçoit qu'il y a une influence énorme des multinationales. C'est-à-dire qu'il y a des influences extérieures non politiques qui conduisent à une dictature.
Oui, ben c'est-à-dire que ça c'était le slogan en 36, hein, plutôt Hitler que le Front populaire.
Eh oui.
Parce que on ignorait ou on voulait ignorer la capacité énorme de nuisance d'Hitler. Mais toujours est-il que bien sûr que un certain type de capitalisme non maîtrisé, non régulé, peut très bien s'accommoder et même être favorable à des régimes autoritaires qui ne vont pas mettre en œuvre précisément la redistribution au plus grand nombre des biens matériels et culturels d'ailleurs. Parce que la démocratie, c'est pas seulement un régime politique fait de liberté politique. C'est fondamental et c'est primordial à tous les sens du terme. C'est-à-dire que sans liberté politique, sans démocratie politique, il ne peut pas y avoir les autres dimensions de la démocratie qui se déploient. Mais il y a deux autres piliers essentiels de la démocratie qui sont précisément la démocratie économique et la démocratie culturelle, c'est-à-dire la redistribution au plus grand nombre possible au sein de la société des biens matériels et culturels, parce que et vous avez une synergie qui se fait dans les démocraties entre la redistribution au plus grand nombre du pouvoir politique, la redistribution au plus grand nombre des biens économiques, des richesses produites et de la culture. Pourquoi ? Parce que en fait, si vous avez un niveau de vie suffisant, vous êtes plus indépendant pour pouvoir voter librement. Si on vous a appris à avoir un esprit critique à l'école notamment, à vous distancier des dogmes, des préjugés, notamment religieux, eh bien, vous êtes plus à même de voter librement en esprit libre, en toute conscience. Et donc, ces trois piliers de la démocratie font synergie, voyez. Alors, évidemment, il y a des ça va à l'encontre de certains intérêts économiques carnassiers, bien entendu.
Bah, en fait, ce qui fait obstacle, c'est la pensée. Et ce que la pensée individuelle, la pensée construite. Mais vous parlez dans votre livre, justement, on en vient à notre gouvernement, à nous, aux macronistes, d'un gouvernement technocratique dit de bonne gouvernance. C'est-à-dire le gouvernement macroniste n'est là que pour appliquer les injonctions d'un ordre mondial de plus en plus libéral. Donc on en revient à Thatcher avec il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça. Et c'est la seule solution possible, c'est de faire ce que je fais. On le voit bien avec la réforme des retraites, où le Parlement n'existe plus, où les corps intermédiaires n'existent plus, et qui vient tout de suite justifier la violence d'État, puisque être contre cette solution, c'est être contre la volonté d'être sauvé. Puisqu'il est là pour sauver la France, il est là pour l'empêcher de tomber. Donc, est-ce qu'on n'est pas en plein passage d'une démocratie à ce que vous appeliez la démocratoure, la démocrature, ou une démocratie illibérale, où un seul homme concentre tous les pouvoirs et écarte absolument toutes les instances démocratiques?
Alors, il y a une régression autoritaire qui se cache en effet derrière les attitudes technocratiques. Alors Macron, le président Macron là, est une figure emblématique de la dérive technocratique, mais ça fait longtemps qu'en France elle existe. Hein.
C'est un
danger, c'est effectivement une dérive autoritaire. Vous avez en fait en France, on assiste à différents types de dérives autoritaires. Hein. En fait, si vous prenez les trois grandes forces politiques, effectivement, vous avez les macronistes, pour dire vite, qui sont dans cette dérive autoritaire de type technocratique. Vous avez effectivement le Rassemblement national qui, sans être un parti d'extrême droite, contient en son sein, effectivement, parce qu'il est populiste, une dimension autoritaire, main forte, entre guillemets, comme si des politiques extrêmement autoritaires pouvaient résoudre tous les problèmes, ce qui n'est hélas pas le cas, d'une certaine manière.
Ça s'est jamais vu.
Et vous avez effectivement un troisième type, une troisième tentation autoritaire du côté de LFI, avec cette en fait ce penchant néo-bolchevique que je dirais, hein. Voilà, nous proposons la vraie démocratie et en fait c'est nous représentons le peuple a toujours raison, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait du pluralisme, etc. Mais vous avez également une autre tendance autoritaire qui travaille la société française comme toutes les sociétés européennes, c'est aussi l'islamisme. Il faut quand même pas négliger cette
pression. Le fascisme vert.
Exactement, ce mouvement politico-religieux qui travaille nombre de nos concitoyens et notamment les jeunes et qui les travaille de façon très insidieuse, eux aussi en jouant sur la liberté comme si la liberté de la soumission était à valoriser. C'est vrai que la servitude volontaire ressort de la liberté individuelle, mais la considérer comme étant supérieure à la liberté de l'autonomie et de la libération justement du dogme et de la soumission, c'est évidemment une erreur. Et je pense que notre démocratie ne tranche pas assez fermement entre ces deux libertés. Vous savez, la loi, elle arbitre entre deux libertés. Elle n'arbitre pas toujours entre la liberté et l'opposition à la liberté. Elle arbitre généralement entre deux types de libertés. Donc, c'est vrai que porter le voile est une liberté. Sauf que c'est une liberté liberticide pour les femmes, puisqu'elle signifie leur soumission. Alors les choses sont complexes. Oui, c'est une liberté, c'est une forme de liberté, mais contre laquelle nous, féministes, nous devons nous révolter et contre laquelle la loi doit intervenir.
Mais
c'est complexe.
Le problème, c'est que l'islamisme sert à tout le monde. Il sert au gouvernement à mettre en place des lois liberticides. Il sert à la droite à dire qu'il faut virer les immigrés. Il sert à la gauche à dire que la droite est pas gentille. Enfin voilà, tout le monde s'en sert, tout le monde
pendant ce temps les frères musulmans progressent.
Effectivement. Mais là vous me faites l'introduction, c'est très bien parce que je voulais parler du rôle du religieux à travers le monde. Parce que ça se limite pas à l'islamisme en France. Quand on voit que des gens aussi dangereux que Trump ou Bolsonaro ont été élus grâce aux voix des évangélistes, qui sont mouvement extrêmement puissant, un mouvement qui est en train de détruire complètement les fondements de la société, par exemple en Guyane ou en Amazonie, qui est en train de tuer les sociétés tribales en Afrique. Il y a d'autres en Inde. Le gouvernement dictatorial et hindouiste, le rôle du religieux est en train d'exploser à l'heure actuelle sur la planète.
Oui, absolument, absolument. Non, mais vous avez raison. Mais juste encore un mot à propos de l'islamisme. Effectivement, il nous attaque, nous les démocraties, mais il faut savoir qu'il est vraiment très puissant dans les pays dits musulmans. Et vraiment, je pense que c'est vraiment une erreur que d'analyser toujours les anciens pays, les pays anciennement colonisés par des pays occidentaux, comme étant toujours les victimes de la colonisation. Il faut quand même rappeler que ce sont leurs gouvernements, notamment en Algérie, le gouvernement toujours tenu par les militaires.
C'est une kleptocratie.
Mais oui, cette kleptocratie qui affame son peuple alors que le pays a de grandes richesses et de grandes capacités et un dynamisme potentiel énorme. Donc vraiment, ne pas oublier cette critique des gouvernements actuels dans les pays dits musulmans et leur instrumentalisation de la religion, justement. Donc c'est vrai que la religion est vraiment un problème extrêmement grave lorsqu'elle se mêle de politique.
Parce et justement, on tape sur l'islamisme à juste titre,
Oui, oui. Et évangélistes... en Amérique latine, notamment, l'évangélisme est un phénomène extrêmement...
On n'en entend jamais parler.
Non. Et, enfin, très peu. Il y a eu un très bon reportage sur Arte, il n'y a pas très longtemps, hein, sur les évangélistes aux États-Unis. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais je pense qu'effectivement, et en Amérique latine, vous savez que le groupe parlementaire le plus important au Brésil, c'est toute secte confondue, parce que heureusement ils sont un petit peu divisés, mais quand même ils se retrouvent sur l'essentiel. Le plus grand groupe parlementaire, c'est le groupe formé par tous les élus évangélistes.
Bah c'est pas pour rien qu'on a un pape argentin. C'est parce que l'Église catholique était en train de se faire tailler des croupières.
Absolument. Le catholicisme recule beaucoup et très peu parce qu'il y a des christianisations, mais parce que leur part de marché est prise par les évangélistes. Et ça, je pense que effectivement, et les évangélistes d'ailleurs qui se retrouvent avec beaucoup de d'islamistes, notamment pour nier des vérités scientifiques, hein, parmi les platistes. Enfin, imaginez qu'aujourd'hui un nombre considérable de nos des humains sur Terre considèrent que la Terre est plate. Je veux dire, c'est énorme. Ou que
pourquoi elle est ronde?
Et que notre monde a été créé en 7 jours, mais pour de vrai.
Mais oui, et puis il y a des os de dinosaures un peu partout que Dieu a mis, etc.
C'est quand même effrayant. Donc ce retour du religieux en politique est à mon sens effectivement une régression de l'humanisme, du rationalisme, de cette capacité de l'esprit humain à s'élever au-dessus des dogmes, des croyances imposées, vous voyez. Parce que je ne suis pas du tout opposée, d'ailleurs, comment être opposée à la foi? Des gens qui ont la foi, ça ne se contrôle pas. C'est quelque chose d'individuel,
de privé.
De très privé, mais de très intime, je dirais. Et quiconque s'immisce au sein de l'intimité la plus profonde des gens est vraiment quelqu'un à condamner. Donc ce n'est pas du tout la foi qu'il s'agit là de condamner, mais vraiment la puissance de groupes politiques finalement, hein, qui vont imposer des dogmes, des visions du monde complètement à l'opposé du rationalisme et de l'esprit critique évidemment, et donc ce sont tout naturellement des gens qui versent dans l'autoritarisme politique.
Exactement.
Et ça, on l'a bien vu avec Bolsonaro au Brésil, bien sûr.
Et sur ces fortes paroles, sur ce sinistre personnage, nous allons faire notre seconde pause musicale avec Alpha Blondie, Dictature, ça tombe bien.
La paix sociale ne peut se conjuguer que dans l'unité. Le totalitarisme xénophobe mènera à l'adversité. Avec son corollaire de colère généralisée, toutes les atrocités dans la cité. Sans péril, en triomphe, sans gloire. Vos lois fébriles nous poussent au désespoir. Je refuse l'exil, car Dieu est ma gloire. Je refuse l'exil, car Dieu est ma victoire. La carotte et le bâton, attention au retour de bâton. La paix sociale, la paix civile ne peut se réaliser que dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité.
Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre.
Vous êtes toujours sur Radio Évasion et René Frégosi est également toujours avec nous pour nous parler de son essai 50 nuances de dictature qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection Un monde à raconter. Alors on parlait de la foi là juste avant et du prosélytisme, mais vous définissez exactement de la même façon la dictature. Vous dites que la dictature c'est quelque chose qui est c'est un régime qui est obligé d'être expansionniste, d'avoir un ennemi comme la foi. Il y a toujours des ennemis de la foi, et c'est un petit peu le même mode de pensée.
Oui, alors donc pas tant la foi que la religion.
La religion, hein, la foi, oui, pardon, la, oui,
la
oui,
foi,
oui, oui.
La foi étant du ressort de l'intime, mais effectivement, ce sont des pensées de type autoritaire, voire totalitaire en fait, c'est-à-dire qui projettent une vision du monde globale qui est monocausale. Et qui explique tout par alors soit par Dieu qui décide de tout, Dieu qui parle quand même par la voix de certains, hein, et qui impose leur vue à tous, qui refuse le pluralisme de d'ailleurs même au sein. Si vous prenez les islamistes ou même les évangélistes, c'est ça le côté sectaire, c'est que en fait, même à l'intérieur de leur religion au sens large du terme, ils refusent la possibilité qu'il y ait plusieurs interprétations possible de la même religion. Ce sont des visions absolument totalitaires. Et généralement, ben, si vous regardez les régimes théocratiques, qu'ils soient effectivement de type musulman, c'est quand même les plus nombreux sur Terre qui ont réussi à s'emparer du pouvoir politique des États. Hein. Mais effectivement, vous évoquiez aussi le cas de l'Inde, qui n'est pas encore une dictature, qui est toujours une démocratie, mais de très mauvaise qualité, mais avec effectivement une tendance à l'autoritarisme sous la houlette d'un gouvernement religieux.
Hindouiste, extrémiste.
Absolument. Donc, parce que, si vous voulez, le problème de la dictature et de la démocratie, c'est que les dictatures donc sont des régimes et la démocratie aussi. Et ce sont des régimes qui ont des différences de degré qu'on peut mesurer. Hein, une démocratie, d'abord, la démocratie n'est jamais parfaite. La démocratie est toujours en mouvement. C'est ça, d'ailleurs, qui fait sa force.
Parce qu'elle est dans le débat.
Sa souplesse, voilà. Alors, en fait, on considère souvent que les démocraties sont moins solides que les dictatures. C'est faux, parce qu'en fait, les dictatures, c'est rigide. Et donc, ça peut casser du jour au lendemain. Tandis qu'une démocratie, c'est souple. Alors, c'est pas parfait, loin de là. Ça peut même être très, très dégradé. Hein, et là, ce que nous constatons, aujourd'hui, les démocraties se dégradent du fait de leur mauvaise gestion, mais aussi du fait de la perte de capacité des États. Il faut se souvenir que la démocratie, elle est née dans le cadre d'un État-nation, hein, que ça soit la cité-État grecque jusqu'aux États-nations modernes. Et aujourd'hui, du fait de la mondialisation capitalistique, hein, aujourd'hui, les États n'ont plus la prise qu'ils avaient avant sur le capitalisme et donc sur la redistribution des richesses et donc sur la redistribution aussi de la culture. Hein. Et donc, tous les aspects de la mondialisation ont affaibli considérablement les États. Or, la démocratie, ça se passe dans un cadre étatique. Hein, on vote pour un gouvernement national. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus de mal finalement à la démocratie, c'est que les régimes démocratiques ont beaucoup de difficultés à trouver des points d'accord et à se coaliser pour reprendre en main la redistribution des biens matériels et des bénéfices du capitalisme pour mettre en place cette redistribution. On voit bien la difficulté qu'il y a à imposer une taxe minime sur les transactions financières. Alors, on commence à en parler, hein, mais évidemment, les démocraties sont désarmées aujourd'hui face au capitalisme et donc, comme elles sont moins performantes, eh bien, les gens ont moins adhèrent beaucoup moins à l'idéal démocratique.
Il y a une sorte de sécession. Il y a une sécession des riches, des très très riches, par rapport aux États.
Ah ça oui.
Donc en fait, peu importe le régime démocratique ou dictature, à la limite, vulgairement, ils s'en foutent. Les très très riches, ils font ce qu'ils veulent.
Ils sont dans un autre espace. Ils sont dans un autre espace.
Ils ont le budget de plusieurs États, nations, ils se moquent totalement des lois. Bolloré se fout complètement de tout ce qu'on peut décider en Afrique. Il a décidé qu'il ferait ça, il le fait. C'est un peu pareil pour les mines les entreprises minières canadiennes ou les Chinois au Congo. Ils s'en foutent des lois, c'est pas grave.
Ben, c'est-à-dire, non, et c'est qu'en plus, il n'y a pas vraiment d'accords internationaux. Et donc, c'est difficile. Mais en plus de ça, je veux dire, vous avez un développement des systèmes mafieux au niveau international qui
recoupe le système financier.
Oui. Et aussi certains pouvoirs politiques, mais aussi des mouvements comme les mouvements islamistes, hein, et évangélistes d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les démocraties de retrouver leur capacité à être efficace dans aussi bien la redistribution du pouvoir politique que des biens matériels et culturels. Également, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas qu'en France que le niveau scolaire baisse. Vous voyez, c'est un outil extrêmement important pour la démocratie, que l'éducation à l'esprit libre, à la libre pensée, à l'esprit critique, à la rationalité, à la science, et tout ça est en perte de vitesse, et ça aussi, ça porte préjudice à.
Parce qu'on forme pas des citoyens, on forme des employés.
On forme. Vous savez, on forme même pas des employés. On forme plus.
On forme plus. Il y a une très belle phrase dans votre livre, c'est « Si la dictature ne fait plus peur dans les pays démocratiques, c'est parce que la démocratie ne fait plus envie. »
Eh oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette tentation de se dire « Oh là là, si on était en démocratie, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » On s'aperçoit que nous, normalement, on n'arrête pas de nous dire qu'on y est, et on s'aperçoit qu'on n'a plus ni pouvoir, ni rien, qu'une fois les cinq ans, on a des élections qui sont par défaut, on a le choix entre la peste et le choléra, au niveau de...
Et que nos élus, de toute façon, même s'ils veulent,
n'ont
ils
pas le pouvoir.
Ils peuvent très peu.
Ils n'ont pas le pouvoir. Et que tout ce qu'on apprend par derrière, c'est qu'il y a une caste de fonctionnaires de très très haut niveau qui, eux, régissent et ne sont pas soumis au vote et qui, eux, régissent effectivement la nation tous les jours.
Donc, oui, mais en même temps, ils la gèrent. Mais ils ne sont pas libres, eux non plus, de donner la direction qu'ils veulent.
Mais c'est ce que vous disiez avec la bonne gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une façon de gouverner qui a été décidée par...
Mais justement, il n'y a pas un groupe de méchants qui décident.
Non.
C'est terrible, parce que s'il y avait au moins un groupe de méchants qui décide, on pourrait s'y attaquer. Mais c'est le système, donc c'est tout un système. Il y a des tas de causes convergentes. C'est extrêmement complexe.
Ce sont juste des intérêts communs.
Alors après, voilà, il faut analyser les différents, mais surtout, je pense que c'est vraiment moi j'en appelle à un sursaut démocratique de l'assaise démocratique, c'est-à-dire le goût de l'effort, de retrouver cette envie
de faire des projets communs.
Effectivement, et de penser ensemble et de d'inventer, d'innover des nouvelles méthodes pour vraiment redistribuer au plus grand nombre au niveau mondial le pouvoir politique et les biens matériels et moraux. Ça,
il y a un sujet que je voulais absolument aborder. Moi, on arrive presque à la fin de l'émission. Là, c'est le rôle des médias. Avec le fait de noyer la population sous des flots et des flots d'informations, qui fait qu'on ne sait plus ce qui est important, et le rôle des médias qui est de plus en plus important dans le brouillage du réel. Alors tous les médias, ça peut aussi bien être les réseaux sociaux, les médias, les chaînes d'infos en continu, on sait absolument plus où on en est.
Ben, c'est-à-dire, moi, quand même, les médias traditionnels, je dirais, que ça soit presse, radio, télé, même les chaînes en continu et tout ça, c'est quand même relativement maîtrisé et pluraliste, mais le problème, c'est vraiment tout ce qui circule, parce que, vous savez, les jeunes, ils regardent même pas la télé. Donc, et ils lisent pas les journaux et ils écoutent pas beaucoup les radios intelligentes.
Radio Évasion, par exemple.
Par exemple. Et donc, enfin, là, je fais un procès d'intention parce que je ne connais pas les statistiques. Mais le problème, c'est effectivement tout ce qui circule sur Internet, en fait. Et si vous allez chercher de l'information sur Internet, vous trouvez des choses absolument importantes, intéressantes, et puis n'importe quoi, et beaucoup de n'importe quoi et de choses extrêmement néfastes. Et lorsque vous n'êtes pas formé à ça, et parce que tout le monde passe toujours par l'école, donc l'école, vraiment, on dit tout commence à l'école, mais c'est vrai. Et donc, que cette école ne remplisse plus son rôle d'esprit, de formation de l'esprit critique, de formation d'analyse et de prise de distance par rapport aux préjugés, aux dogmes, à la pensée toute faite, ça c'est vraiment très très grave. Et ça on a encore les moyens de le faire. Donc vraiment, il faut du volontarisme à ce niveau-là, moi je dirais.
Il est grand temps de réagir pour sauver la démocratie.
Oui.
Oui. Vous pensez qu'elle est en danger?
Elle est affaiblie. Elle est affaiblie. C'est clair. C'est pourquoi il faut vraiment analyser et lutter contre toutes ces tendances, ces tentations, ces dérives autoritaires.
Oui, je crois que j'ai lu dans votre livre là que entre 2015 et 2021, la chute du nombre des démocraties elle est passée de 63 à 56% dans le monde.
Oui. Alors ça, c'est au niveau des régimes. Oui. Mais en plus, les grandes dictatures comme la Chine, l'Iran, la Turquie, la Russie, en fait, toutes les grandes dictatures qui, en plus, trouvent des accords aujourd'hui, alors qu'avant, elles étaient beaucoup plus divergentes. Aujourd'hui, elles sont davantage convergentes, même si elles gardent des intérêts divergents. Et qui s'appuient sur d'autres régimes démocratiques et qui appuient d'autres régimes dictatoriaux, mais en plus, ces grandes dictatures sont de plus en plus puissantes, de plus en plus arrogantes et de plus en plus attrayantes pour le reste du monde. Donc c'est vraiment l'affaiblissement des démocraties. La démocratie est cernée de toutes parts. Elle est cernée en tant que régime, en tant qu'idéal et en tant que mode de relation interhumaine.
Ah ben sur ces fortes paroles optimistes.
Oui, voilà, il faut réagir.
On va clore cette émission. Moi, je rappelle votre ouvrage, c'est 50 nuances de dictature. Un petit clin d'œil sadomaso, ça peut pas faire de mal quand on parle de ce genre de choses.
Absolument.
Qui est paru aux éditions de l'Aube, dans la collection Un monde à raconter. Merci René Frégosi.
Merci à vous.
Vous écoutiez bien au contraire l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air sur les ondes de Radio Évasion. Nous nous retrouvons bien entendu le mois prochain pour un nouveau thème à explorer. Pour respirer un tantinet, nous parlerons de tourisme. Bye bye.